sens dans l'enregistrement là, parce que j'ai oublié. Est-ce que, donc, ma question, est-ce que vous êtes entièrement satisfait de ce que Jésus a fait pour vous? C'est une question qui peut vous paraître un peu étrange, mais qui est pourtant très sérieuse ce soir. Car si vous n'êtes pas entièrement satisfait dans votre for intérieur de ce que Jésus a fait pour vous, vous allez naturellement être enclin à ajouter à votre christianisme des croyances ou des pratiques destinées à compléter votre christianisme, mais qui en fin de compte vont invalider votre christianisme. Un peu comme si vous ajoutiez un œuf pourri à votre pâte à crêpes. Peu importe le nombre d'œufs frais que vous aurez mis auparavant, un œuf pourri suffit à la gâcher en entier, n'est-ce pas? Eh bien, c'est précisément ce problème auquel les Colossiens, donc les habitants de cette ville qui s'appelle Colosse et auquel Paul écrit, c'est précisément à ce problème que ces Colossiens font face, et c'est précisément à ce problème que Paul veut répondre en leur écrivant cette épître, qui n'est pas très longue par ailleurs et qui occupe une petite place bien au chaud là dans notre Nouveau Testament. En termes techniques, ce problème, on l'appelle le syncrétisme. Le syncrétisme, c'est-à-dire le fait de mélanger avec le christianisme des croyances ou des pratiques issues d'autres religions ou d'autres systèmes de pensée. En l'occurrence, à Colosse, dans cette ville, il y avait des personnes qui préconisaient d'intégrer à la foi chrétienne des idées issues d'une part du paganisme, hein, du monde païen dans lequel ils vivaient, gréco-païen, si j'ose dire, et puis d'autre part, des idées et des pratiques issues de certaines sectes juives. Donc ça faisait un curieux mélange, si vous voulez. Mais aujourd'hui, le syncrétisme prend d'autres formes, mais n'est pas moins dangereux. On n'utilise peut-être pas toujours, d'ailleurs, le terme technique de syncrétisme pour décrire ce problème, mais quand même, n'y a-t-il pas des choses, chez vous, que vous êtes enclin à ajouter à votre christianisme en vue de le compléter? Comme s'il lui manquait quelque chose. Il y a des gens, par exemple, qui se disent chrétiens, et puis qui se livrent à des expériences mystiques ou ésotériques dans le but d'être mieux reliés au monde spirituel. Il y a d'autres personnes qui se disent chrétiens et qui pratiquent ce qu'on appelle une forme de mortification, c'est-à-dire le fait de s'imposer des contraintes physiques, comme le jeûne, par exemple, mais dans le but d'être entièrement purifiés de leurs péchés. Ou autre exemple encore, il y a des gens qui se disent chrétiens et qui consultent des exorcistes ou des marabouts dans le but de conjurer le mauvais sort et d'être délivrés de diverses souffrances attribuées aux esprits. Ces gens-là, au fond, s'ils recherchent ces choses, c'est parce qu'ils ne sont pas entièrement satisfaits dans leur for intérieur de ce que Jésus a fait pour eux. Alors, est-ce que vous l'êtes? Est-ce que vous êtes entièrement satisfait de ce que Jésus a fait pour vous? Paul, en tout cas, il veut corriger le syncrétisme des Colossiens, et pour cela, il va notamment insister sur un point particulier, et c'est celui qu'on va voir ce soir à travers ce texte, c'est le point que j'aimerais qu'on retienne, et c'est le suivant. L'œuvre de Jésus en faveur du croyant est radicale et complète. L'œuvre de Jésus en faveur du croyant est radicale et complète. Et j'espère qu'à l'issue de ce message, nous en serons tous pleinement convaincus. Mais avant d'aller plus loin, lisons donc le texte en question. L'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 2, versets 8 à 15. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, selon la tradition des hommes, selon les principes élémentaires du monde, et non selon Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute principauté et de tout pouvoir. En lui aussi, vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par la main des hommes, c'est-à-dire le dépouillement du corps de la chair, la circoncision du Christ. Enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité d'entre les morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses, il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. Il l'a supprimé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les principautés et les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'eux par la croix. On s'arrête ici pour la lecture de la parole de Dieu. Je vous invite à la prière avant de continuer. Notre Dieu, notre Père, nous sollicitons ton aide maintenant dans la compréhension de ta parole, et notamment de ce passage en particulier. S'il te plaît, sanctifie nos cœurs, rends-nous attentifs à tout ce que tu veux nous dire. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. L'œuvre de Jésus, donc, en faveur du croyant, est radicale et complète. Et la première chose que Paul veut nous faire comprendre en tant que croyant, pour que nous soyons entièrement satisfaits de ce que Jésus a fait pour nous, eh bien, la première chose qu'il veut nous faire comprendre, c'est que nous sommes spirituellement comblés en Jésus. Nous sommes spirituellement comblés en Jésus. Paul sait très bien que ses lecteurs sont confrontés à des croyances et à des pratiques qui ne viennent pas de Dieu, mais qui se présentent à eux comme des moyens d'augmenter leur spiritualité. Et pour Paul, ces choses-là sont des illusions et des pièges. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie selon la tradition des hommes, selon les principes élémentaires du monde, et non selon Christ. Pourquoi les Colossiens doivent-ils éviter ces pièges? Eh bien, parce que par la foi en Jésus, leur explique Paul, ils ont déjà tout ce qu'il leur faut. Remarquez la façon dont Paul utilise ici les mots « plénitude » et « pleinement » au verset 9 et 10. En Jésus, dit-il, il y a toute la plénitude de la divinité et les croyants ont tout pleinement en lui. Autrement dit, inutile de chercher ailleurs. Tout est en Jésus et tout vient de Jésus. Vous connaissez peut-être déjà l'histoire de ce couple qui a des revenus modestes et qui économise pendant 10 ans pour pouvoir faire une croisière en amoureux sur la Méditerranée. Et le jour venu, avant de monter sur le paquebot, ils décident de remplir une de leurs valises avec des boîtes de thon, des paquets de biscottes et des fruits secs. Pourquoi? Parce qu'ils savent pertinemment qu'ils n'auront pas assez d'argent une fois à bord pour manger ne serait-ce qu'une seule fois au restaurant du navire. Ils ont tout dépensé, ou presque, sur les billets pour monter à bord. Alors, pendant toute la durée de la croisière, et bien 3 fois par jour, à l'heure des repas, tandis que les autres passagers prennent place joyeusement au restaurant du navire, et bien eux se retirent discrètement, un peu gênés, dans leur cabine. Et ils se nourrissent d'une boîte de thon, de quelques biscottes et de quelques fruits secs. Ce n'est que le dernier jour de la croisière qu'ils découvrent, au détour d'une conversation avec d'autres passagers, et à leur plus grande stupeur et à leur plus grand regret, que les consommations au restaurant du navire étaient incluses dans le prix des billets qu'ils avaient achetés. Quelle horrible découverte, n'est-ce pas? Mais de même, dans le texte qui nous concerne cet après-midi, Paul fait comprendre à ses lecteurs que tout est inclus en Jésus. Tout est inclus en Jésus, et que par le moyen de la foi, tout est à eux. Tout est à ces chrétiens-là, de la ville de Colosse. Il n'y a rien à ajouter parce qu'il ne manque rien à Jésus. Il est Dieu, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Il n'y a rien au-dessus de Jésus. Il est le chef de tout ce qui existe, chef du monde physique et du monde spirituel, dit-il. Et par le moyen de la foi, nous sommes unis à lui. Unis à lui, à celui en qui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Nous sommes par le moyen de la foi unis à lui. Et d'ailleurs, ce concept de notre union à Jésus, c'est une idée qui occupe tout ce passage, et plus largement cette épître aux Colossiens ainsi que l'épître aux Éphésiens. Et on le voit dans la répétition de cette expression chez Paul, en lui, en Christ, qui revient régulièrement. En Christ, quel est le statut, la situation du croyant qui a placé sa foi en Jésus? En lui, il y a ceci, en lui, il y a cela, en lui, voici ce qui s'est réalisé, en lui, voici ce qui se réalisera, etc., etc. Par la foi, donc, nous sommes unis à celui auquel il ne manque rien, de sorte qu'il ne nous manque plus rien. Comme le dit Paul, d'ailleurs, dans l'introduction à l'épître aux Éphésiens, il dit « Dieu nous a bénis de toute bénédiction spirituelle en Christ. Alors pour nous aider ce soir à être entièrement satisfaits de ce que Jésus a fait pour nous, eh bien Paul nous propose donc un premier remède tout simple et qui consiste à contempler l'objet de notre foi. Quel est-il, l'objet de notre foi? C'est Jésus, le Dieu vivant, fait homme, le chef suprême de tout ce qui existe. Le voilà, l'objet de notre foi. Et c'est à lui que nous sommes unis, par le moyen de la foi. Par conséquent, puisque nous sommes unis à lui, eh bien tout ce qui est à lui, est à nous. Nous ne pourrions jamais rien y ajouter. Nous sommes comblés en Jésus. Mais la deuxième chose que Paul veut nous faire comprendre, en tant que croyant, toujours pour nous aider à être entièrement satisfaits de ce que Jésus a fait pour nous, bien la deuxième chose qu'il veut nous faire comprendre, c'est que nous sommes spirituellement vivants en Jésus. Et dans ces trois versets, les versets 11 à 13, Paul va s'attacher à une pratique particulière que certains voulaient imposer aux Colossiens. Il s'agit de la circoncision. Alors il se trouve que l'écrasante majorité des chrétiens, des membres de cette église à Colosse, eh bien il se trouve que ces gens-là ne sont pas issus du judaïsme, et donc les hommes n'étaient pas circoncis, et qu'ils n'étaient pas juifs. Mais il y avait quelques personnes dans cette église qui apparemment avaient été influencées par certaines sectes issues du judaïsme, et qui estimait que sans se faire circoncire, on ne pouvait pas être entièrement purifié de ses péchés. Voilà ce qu'il pensait. Sans se faire circoncire, on ne pouvait pas être entièrement purifié de ses péchés. Paul va donc répondre à cette idée, dans ces quelques versets, en montrant que tout croyant, circoncis ou non, physiquement, est bel et bien circoncis spirituellement, par le moyen de la foi en Jésus. Vous voyez ce qu'il dit ? En lui aussi, en Christ, toujours par le moyen de notre foi en lui, vous avez été circoncis, mais d'une circoncision qui n'est pas faite par la main des hommes, c'est-à-dire le dépouillement du corps de la chair, la circoncision du Christ. Et on va regarder un peu plus en détail ce qu'il veut dire par là. Cette circoncision spirituelle, qu'il appelle donc la circoncision du Christ, c'est en fait la réalité qui était autrefois signifiée par la circoncision physique, notamment dans tout l'Ancien Testament. Et on peut voir que dans l'Ancien Testament, la circoncision physique pointait vers une autre réalité qui, est, quant à elle, était spirituelle, notamment dans l'emploi des expressions qu'on retrouve par-ci par-là dans l'Ancien Testament, l'expression « la circoncision du cœur ». La circoncision physique est censée pointer vers un autre genre de circoncision, la circoncision du cœur, une circoncision spirituelle qu'ici, Paul appelle la circoncision du Christ. Et il s'agit de quoi ? Il s'agit du dépouillement de notre nature pécheresse et mauvaise au profit d'une nouvelle nature. Ou pour le dire autrement, comme le fait Paul d'ailleurs, c'est une mort et une résurrection au sens spirituel, une mort au péché et une résurrection pour Dieu. Et ce thème, il le développe d'ailleurs dans une autre épître, celle aux Romains, chapitre 6, si ça vous intéresse, vous pourrez regarder ça plus tard. Bref, la circoncision du Christ, pour Paul, ça équivaut à un changement radical et complet, comme une mort et une résurrection. Est-ce qu'on peut imaginer chose plus radicale et complète que ça ? Une mort et une résurrection. Et cette réalité spirituelle, Paul nous explique, nous y entrons, encore une fois, par le moyen de la foi en Jésus, c'est-à-dire de notre union avec lui. Pourquoi ? Parce que lui-même, Jésus, est mort et ressuscité physiquement quant à lui. Et comme le dit Paul dans un autre passage, c'est pour le péché que Jésus est mort une fois pour toutes, et maintenant qu'il vit, il vit pour Dieu. Eh bien nous, parce que nous sommes unis à lui, cela s'applique à nous aussi. Nous sommes morts au péché et maintenant vivants pour Dieu. Donc les croyants connaissent un changement radical et complet par le moyen de leur foi en Jésus ou de leur union à Jésus. Et la nature nous offre une image de cette transformation. Il s'agit d'un animal qui s'appelle le Bernard l'Ermite. C'est un crustacé très sympathique, le Bernard l'Ermite, et il paraît qu'en Australie, je ne sais pas si c'est vrai, mec, il paraît qu'en Australie, Beaucoup de gens aiment avoir des bernards l'ermite comme animal de compagnie. C'est vrai que c'est assez mignon en fait quand on y pense. En tout cas, la mue du bernard l'ermite est un phénomène vraiment remarquable. Pour muer, voyez-vous, le bernard l'ermite commence par creuser un trou, ou bien il cherche une caverne, une grotte où il va pouvoir s'enterrer. Et une fois que le bernard l'ermite s'est enterré, son organisme s'éteint et il devient comme mort, pour plusieurs semaines, voire plusieurs mois, enterré, mort et enterré. Pendant ce processus, le bernard l'ermite perd sa carapace, une espèce de peau rigide qu'on appelle l'exosquelette. Finalement, après un certain temps, le petit animal va ressusciter, entre guillemets, et sortir de son trou avec une nouvelle carapace flambant neuve. C'est impressionnant, non? Et vous voyez, c'est une image du changement radical et complet que connaît le croyant par le moyen de la foi en Jésus. Un peu comme le bernard l'ermite, le croyant est mort, enseveli, dépouillé de sa vieille nature une fois pour toutes, et ressuscité avec une nouvelle nature, tout cela parce qu'il est uni à Jésus. Ça, c'est le changement radical et complet dont la circoncision dans l'Ancien Testament était le signe. Pour Paul donc, dans ce passage, pour Paul, si on n'est pas circoncis physiquement, on n'a pas besoin de le devenir pour entrer pleinement au bénéfice de ce que Jésus a accompli en mourant et en ressuscitant. Pourquoi? Parce que cette réalité, on y entre par le moyen de la foi, en étant unis à Jésus par le moyen de la foi. On n'a certainement pas besoin de se faire circoncire pour être entièrement purifié de ses péchés. Pourquoi? Parce que quand on est en Christ, on est déjà circoncis spirituellement, on est déjà dépouillé de son ancienne nature pécheresse et mauvaise, on est déjà mort et ressuscité en lui, et Dieu nous a fait grâce, nous a fait grâce pour toutes nos offenses. C'est ce que dit Paul dans ce passage. Et Paul ajoute, en passant au verset 12, que cette réalité spirituelle est dorénavant signifiée par le baptême chrétien. En fait, et là je le dis pour les théologiens, ou tous ceux que ça pourrait intéresser, on a ici un passage où Paul dit presque explicitement que le baptême remplace la circoncision comme signe et sceau de la justification par la foi et comme sacrement d'entrée dans l'alliance de grâce. Si ça vous intéresse, on pourra en parler un peu plus après le culte. Mais bref, ce qui nous intéresse surtout ici, c'est le fait que Paul veuille nous aider à être entièrement satisfait de ce que Jésus a fait pour nous. Et pour cela, il nous rappelle qu'en mourant et en ressuscitant au profit des croyants, Jésus nous pardonne toutes nos fautes, il nous dépouille de notre nature mauvaise et il nous fait passer de la mort du péché à la vie de la grâce. Il a fait tout le nécessaire pour que nous soyons vivants en lui. Et la troisième et dernière chose que Paul veut nous faire comprendre en tant que croyants, pour, encore une fois, pour que nous soyons entièrement satisfaits de ce que Jésus a fait pour nous, la troisième et dernière chose qu'il veut nous faire comprendre, c'est que nous sommes spirituellement libres en Jésus. Et dans les deux derniers versets de ce passage, versets 14 et 15, Paul nous parle de deux choses, pardonnez-moi, de deux choses qui sont hostiles aux hommes. Deux choses qui sont hostiles aux hommes. D'abord, il parle d'un acte rédigé contre nous, verset 14. Et ensuite, il parle, verset 15, des principautés et des pouvoirs. Qu'est-ce que Jésus a fait de ces deux choses? Ou qu'est-ce qu'il a fait à ces deux choses? Eh bien, il y a un parallélisme entre ces deux versets. Notez bien que dans les deux cas, versets 14 et 15, dans les deux cas, le sujet est Dieu. Enfin, on n'est pas sûr, peut-être qu'il s'agit plus spécifiquement de Jésus, mais pour être sûr, on va juste dire Dieu. Le sujet est Dieu. L'instrument de ce que Dieu a fait, c'est la croix. Dans les deux, il y a un parallélisme. Hein. Et dans les deux cas, versets 14 et 15, Paul emploie trois verbes dont Dieu est le sujet. Trois verbes qui décrivent ce que Dieu a fait concernant l'acte rédigé contre nous. Dieu l'a effacé, supprimé et cloué à la croix. La croix, l'instrument de ce que Dieu a fait à ces choses. Verset 15, concernant les principautés et les pouvoirs, Dieu les a dépouillés, les a livrés en spectacle et a triomphé d'eux par la croix. Vous voyez le parallélisme ? Qu'est-ce que c'est donc que cet acte rédigé contre nous ? On n'est pas trop sûr, c'est vrai que les commentateurs évoquent plusieurs options, mais il s'agit probablement d'un acte d'accusation. Alors si vous étudiez le droit, je ne sais pas s'il y a des étudiants en droit, ou des avocats, ou des juges parmi nous, mais ça devrait vous dire quelque chose. Un acte d'accusation, c'est le document où figurent tous les chefs d'accusation portés contre nous, ou contre quelqu'un qui est accusé devant un tribunal. Et en l'occurrence, il s'agit d'un acte rédigé contre nous, dit Paul, et c'est intéressant qu'il emploie le pronom « nous », puisqu'il s'inclut hein, dans cette catégorie de personnes. Il s'agit probablement de cette liste de chefs d'accusation portés contre nous et qui dénoncent le décalage, ou que dis-je, l'abîme entre l'état moral de notre vie et la justice parfaite de Dieu. Sur cet acte d'accusation, voici ce qu'il est écrit. Conformément aux articles 1 à 10 de la très sainte loi de Dieu, Alex est poursuivi pour orgueil, cupidité, idolâtrie, égoïsme, haine à l'égard de son prochain, convoitise sexuelle, mensonge, paresse, incrédulité et manque d'amour pour Dieu. Pardonnez ma gorge qui commence à lâcher. Et le diable, qui est appelé dans la Bible l'accusateur des frères, qu'est-ce qu'il adore faire, le diable ? Il adore se saisir de cet acte d'accusation et le brandir sous nos yeux chaque jour pour le faire peser sur notre conscience et nous faire douter de ce que Dieu a fait pour nous par la croix. Et Paul nous rappelle ici que Dieu a pris cet acte d'accusation et il l'a effacé, supprimé et cloué à la croix avec son Fils Jésus-Christ. Une fois pour toutes. Pour nous en libérer. Une fois pour toutes. Et qu'est-ce que c'est que ces principautés et ces pouvoirs ? Ce sont des termes qui désignent les puissances spirituelles. C'est-à-dire des puissances invisibles qui sont à la solde de l'adversaire, c'est-à-dire du diable. Ces puissances s'opposent à l'œuvre de Dieu et cherche à nuire aux hommes. Mais Paul dit que ces puissances-là, elles ont été dépouillées, humiliées et définitivement vaincues par la croix. Et l'image qu'utilise Paul ici, en parlant du triomphe de Jésus sur ses principautés et ses pouvoirs, c'est l'image du défilé triomphal auquel on pouvait assister autrefois sous l'Empire romain. Qu'est-ce que c'était que ce défilé triomphal ? Eh bien, c'est quand un général revenait en vainqueur d'une campagne militaire. Et sous les yeux du peuple, qu'est-ce qu'on faisait ? On faisait d'abord défiler les chars remplis de butin, vous voyez, au milieu de la ville, sous les acclamations du peuple. Ensuite défilaient les membres du Sénat. Et après les membres du Sénat, on faisait défiler le cortège des prisonniers, c'est-à-dire tous les chefs qui avaient été vaincus, accompagnés de leurs familles. Et enfin arrivait juste derrière eux le général triomphant, couronné de lauriers, sur un char tiré par 4 chevaux blancs, suivi ensuite de tous ses légionnaires. Et pour Paul donc, les principautés et les pouvoirs, c'est ce cortège de prisonniers, vaincus, humiliés. Et Jésus, c'est celui qui est assis sur le char, tiré par les 4 chevaux blancs. Pour Paul, Jésus a triomphé des puissances les plus hostiles qui soient, et son triomphe a été total. Vous voyez que Paul veut nous aider à être entièrement satisfait de ce que Jésus a fait pour nous. Si nous sommes unis à Jésus par la foi, alors on peut dire que Jésus nous a définitivement libérés de tout chef d'accusation et de toute servitude par la croix de Jésus. Voici ce que dit Jean Calvin. « Il n'y a tribunal si magnifique, il n'y a trône si excellent, il n'y a appareil de triomphe si noble, il n'y a char si éminent et honorable » que naît ce gibet auquel le Christ, à savoir la croix, hein, auquel le Christ a subjugué, voire même totalement brisé sous ses pieds, la mort et le diable, prince de la mort. Qu'est-ce qu'on peut ajouter à ça ? Qu'y a-t-il à ajouter ? Par la croix, Dieu nous a rendus libres en Jésus. Alors je vous repose la question que j'ai posée en introduction. Est-ce que ce soir vous êtes entièrement satisfait de ce que Jésus a fait pour vous? Ou bien êtes-vous enclin à ajouter à votre christianisme des croyances ou des pratiques destinées à compléter votre christianisme, mais qui en fin de compte vont invalider votre christianisme? Il y a un adage populaire en anglais qui dit ceci. En anglais, ça donne Jesus plus anything spoils everything. En français, si on ajoute quoi que ce soit à Jésus, ça gâche tout. Bon, ça donne pas aussi bien en français, mais bon. Un seul œuf pourri dans la pâte à crêpes, et c'est toute la pâte qui est gâchée, n'est-ce pas? Peut-être êtes-vous enclin à rechercher, vous aussi, des expériences mystiques ou ésotériques destinées à développer votre spiritualité. Ou peut-être avez-vous tendance à vouloir compenser par la rigueur et la discipline tel ou tel aspect de votre vie qui pèse sur votre conscience. Ou peut-être encore êtes-vous tenté de céder à telle ou telle superstition par crainte des esprits ou du mauvais sort. Mais mes amis, Paul a souligné très clairement ici le fait que l'œuvre de Jésus en faveur du croyant est radicale et complète. L'œuvre de Jésus en faveur du croyant, en faveur de celui qui est uni à lui par le moyen de la foi, son œuvre est radicale et complète. Par le moyen de la foi qui nous unit à Jésus, nous sommes spirituellement comblés en lui. Nous sommes spirituellement ressuscités en lui et nous sommes spirituellement libres en lui. Cette réalité dont Dieu est l'auteur dans la vie du croyant, comme je l'ai dit tout à l'heure, Paul la résume en utilisant cette expression emblématique que nous avons vue tout à l'heure, c'est la circoncision du Christ. La circoncision du Christ, voilà ce que ça veut dire, d'être circoncis par Jésus-Christ, circoncis spirituellement. Et nous avons vu aussi que cette réalité qui est signifiée aujourd'hui par le baptême chrétien, à savoir le dépouillement de la nature pécheresse et mauvaise, c'est-à-dire la purification des péchés, et la mort et la résurrection avec Jésus-Christ, c'est-à-dire ce qu'on appelle la régénération pour une nouvelle vie. Oui, c'est cette réalité-là qui est signifiée aujourd'hui par le baptême chrétien. Donc la circoncision et le baptême sont tous les deux, respectivement dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau, des signes de la même réalité spirituelle. Et cette corrélation entre la circoncision et le baptême explique en partie pourquoi il faut baptiser les croyants ainsi que leurs enfants. Car dans tout l'Ancien Testament, les petits garçons du peuple de Dieu, à l'âge de 8 jours, recevaient eux aussi le signe et le sceau de la justification par la foi qui est promise dans l'Évangile. Encore une fois, si ça vous intéresse, on peut en parler davantage après le culte. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, dimanche 1er janvier, selon le calendrier liturgique des églises orthodoxes et des églises anglicanes, et autrefois également de l'église catholique romaine, aujourd'hui, dimanche 1er janvier, c'est la fête de la circoncision du Christ. C'est logique, parce qu'on est 8 jours après la naissance du Christ, n'est-ce pas ? Je vous propose donc, en ce jour, de penser non pas à la circoncision que Jésus a reçue, mais à la circoncision que Jésus opère, et dont le baptême chrétien est le signe. Et donc, dans quelques instants, si vous avez bien lu le bulletin, vous avez dû le voir, Amy, Lenora, Kedmon, Pascal et Margaret vont recevoir le signe, par le baptême, le signe et le sceau des promesses que Dieu fait à tous ceux qui placent leur foi en Jésus. Peu importe leur âge, cette promesse leur est adressée parce qu'ils font partie du peuple de Dieu. Et le signe du baptême consiste en un appel solennel et permanent à répondre par la foi à la grâce qui leur est offerte dans l'Évangile. Amen.